Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une défiance envers les médias et les journalistes. Et ça peut paraître étonnant, puisqu'ils sont là pour nous aider à mieux comprendre, à mieux déchiffrer l'actualité. Et pourtant, la réalité, c'est qu'on n'arrête pas de parler de fake news, on n'arrête pas de parler des milliardaires qui possèdent les médias. Et aujourd'hui, finalement, ça devient très compliqué de savoir comment mieux s'informer. Et ça tombe bien, puisque aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie Novel, qui est une journaliste, qui est une auteure, une réalisatrice, et qui sort un ouvrage, un petit ouvrage extrêmement bien fait, qui s'appelle « Mieux s'informer, je passe à l'acte ». Et avec elle, on va parler du rôle du digital, du rôle des journalistes. Comment ça se fait, en fait, finalement, qu'il y a une défiance aussi forte avec les médias de manière générale? Donc je vous laisse écouter l'épisode, c'est vraiment intéressant, je pense, parce qu'on se pose tous cette question, comment mieux s'informer? Et on essaye d'y répondre avec Anne-Sophie. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vilain, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Anne-Sophie, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour, ça va et toi?
Ça va super. On va parler des médias, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ayant moi-même un média d'une certaine manière. Tu parles beaucoup dans ton livre de la défiance envers les journalistes, mais aussi évidemment la presse, enfin les médias de manière générale. Comment s'est installée cette défiance pour toi?
La défiance, elle n'est pas nouvelle, elle a toujours existé. Elle est aussi ancienne que le métier de journaliste. Quand on a vu apparaître le métier de gazetier à l'époque, les grands intellectuels don Diderot étaient très acerbes à l'égard de la profession qui venait un peu marcher sur leur plate-bande. Et du coup, c'est un truc qui nous colle un peu à la peau. Qui s'est peut-être accru ces dernières années, mais il faut juste retenir que de manière générale, les journalistes sont aussi peu aimés que les banquiers ou que les responsables politiques. Dans les classements, on est toujours entre les deux. Et finalement, voilà, ça fluctue d'une année sur l'autre. Ça, j'avais vu dans les médias Le Monde et Nous, je l'explique, c'est que ça fluctue, ça reste bas. Contrairement à d'autres institutions comme l'hôpital ou l'éducation nationale, ou même l'Église, qui ces dernières années ont vu leur code de confiance vraiment s'écrouler. Mais en fait, les médias, ça a toujours été bas et ça fluctue comme ça. Et donc, en fonction des années, en fonction des... Voilà, il y a des moments où il y a une énorme défiance et donc ça se ressent, et d'autres où ça remonte un petit peu. Je suis très lucide sur le fait qu'on ne pourra jamais retrouver un niveau de confiance énorme vu qu'il n'a jamais existé, à vrai dire.
Mais comment ça s'explique? C'est quand même fou que... Enfin, j'étais pas au courant, tu vois, que ça avait toujours existé, que ça avait toujours été comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rupture qui s'est créée dernièrement. J'avais pas cette lecture.
Alors, on est dans un des pays où le niveau de défiance est le plus élevé. Ça, il faut, voilà, quand on va dans, un peu plus dans le nord, c'est pas le même cas. Genre, en Norvège, Suède, bon, c'est souvent le cas, mais la France est quand même un pays où on a peu confiance en ses médias et en ses journalistes. Et puis, on a tendance en plus à en faire une généralité. On dit, tous les mêmes. Là aussi, ouais. On les met dans un seul et même grand sac et on met ce sac bien loin à la poubelle. On veut pas en entendre parler. Donc voilà. Après, une chose c'est sûr, c'est que avec la multiplication des réseaux sociaux, une défiance qui avant faisait peut-être partie de la sphère conversationnelle entre proches, ensuite c'est en fait transposé sur les réseaux sociaux, donc on peut aussi s'insurger de ce qu'on voit passer dans les médias plus aisément. Et là où il y a eu un tournant qui pouvait être inquiétant, mais pas étonnant, c'est au moment des gilets jaunes. Moi, je sais, on est en train de monter le film, Les médias, le monde et moi, avec Flo Laval, quand on voit les premières manifs de gilets jaunes et Raphaël Maillochon, le reporter de, à l'époque, BFM TV, qui se prend un œuf sur la tête. Et du coup, on a récupéré cette image pour le mettre dans le film, mais en disant, mais en fait, cette défiance, maintenant, elle est sortie des écrans, et dans les manifs, on est pris à partie, nous journalistes, comme étant des messagers un peu faciles représentants d'une élite ou perçus comme étant trop proches du pouvoir, etc. Et ça a provoqué en fait un véritable électrochoc dans la profession. Il y a beaucoup de rédactions qui se sont rendues compte au moment des gilets jaunes qu'elles étaient complètement passées à côté d'une réalité sociale, et que les gilets jaunes venaient révéler en fait des vécus qui étaient très peu pris en compte. Et ça a eu cette vertu, en tout cas, de secouer un peu le cocotier. Voilà. Et après, il y a eu l'autre phase liée pour le coup à la pandémie, au Covid, avec d'autres sujets qui ont émergé, d'autres problématiques voilà, liées à la couverture en tant que telle du Covid, liées à des polémiques autour de certains médecins ou des vaccins ou que sais-je encore. Il y a eu la question de la gestion de l'État et personne n'y voyait vraiment clair. Et cette période a encore ajouté son lot en fait, de suspicions, mais aussi bon, peut-être d'autres liens qui se sont tissés avec les médias. Mais voilà, et c'est pour ça que je parlais de fluctuation. C'est-à-dire que le Covid, les gens se sont retrouvés devant les médias, il y a eu un pic d'abonnement, et donc du coup, on a retrouvé un peu la confiance dans ces médias. Et puis, voilà, mais je pense qu'on est sur un sujet, en fait, on n'en est qu'au début de la prise de confiance, on n'en est qu'au début de la prise de conscience du malaise qu'il y a dans notre régime informationnel. Comme on a eu cette prise de conscience sur l'alimentation dans les années 80 avec la vache folle, tout un tas de problèmes sanitaires avec voilà, des symptômes d'obésité ou de famine géante et de problèmes de production, et que Slow Food a dit halte là, nous on veut une alimentation bonne, propre et juste. Bah là, sur l'information, on se rend compte qu'il y a une profusion, qu'il y a plein de symptômes très différents, de gens qui sont boulimiques d'informations, qui ont l'impression de contrôler, ils sont très peu nombreux, et pour le reste, c'est des gens qui sont dans la crise de foi ou qui ne s'informent plus. Et en fait, on ressent tous un malaise par rapport à ça. Et puis, ça nous prend un temps d'attention énorme, ça nous manipule aussi d'une certaine manière. Il y a des symptômes d'addiction aussi, hein, qui sont de plus en plus documentés. Des grands flous aussi sur la manière dont on peut discerner le vrai du faux, puis elle est où la vérité dans ce monde aujourd'hui. Voilà, ça c'est un vaste sujet. Et du coup, on en parle de plus en plus. Là, il y a voilà, des rapports entre le Reuters Institute il y a déjà quelques années, la Fondation Jean Jaurès qui l'a documenté plus récemment, des travaux de chercheurs et de chercheuses en France qui le documentent. Pas mal de bouquins qui sont en train de sortir. Il y a de plus en plus d'appels autour de cette nécessité de regarder notre régime informationnel différemment, porter un regard peut-être plus nuancé sur la production médiatique et se dire qu'on peut retisser d'autres types de relations entre producteurs et consommateurs d'informations. Et j'utilise ces termes-là vraiment à dessein.
En fait... Il y a plein de sujets dont on va parler, mais est-ce que un des sujets dont on parle beaucoup en ce moment, qui est lié à la presse gratuite, c'est le fait que la presse elle soit détenue par des milliardaires, dont le monde pour lequel t'écris. Est-ce que ça a pas un impact sur la crédibilité de ce qui se passe? On sait bien que ces personnes achètent ces médias aussi pour faire de l'influence, évidemment. Quand évidemment ils achètent de la pub par millions, forcément ça même si les journalistes sont neutres, sont censés l'être, il y a un moment donné il y a une sorte de pression qui se crée naturellement entre la direction publicité et puis la rédaction de l'autre côté. Est-ce que ça a pas nuit en fait tout cet avènement de la presse gratuite et par conséquent moi j'ai eu la sensation que plutôt que de tirer les médias vers le haut, ils les ont tirés vers le bas. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de concurrencer 20 minutes et Métro pour les nommer, en essayant de faire, en investissant moins sur les journalistes, en investissant moins sur les photos. Et puis, du coup, ça a tiré vers le bas. Donc, l'information, finalement, elle n'était pas très bonne. Ça s'est relevé depuis, hein, bien sûr, mais il y a d'autres sujets dont on va parler ensuite. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème?
En fait, ça c'est dans les médias Le Monde et Nous, dans le film aussi Les médias Le Monde et Moi, on revient longuement là-dessus, sur ce que certains appellent aussi l'effet cours de récré, tout le monde prend la parole avec l'arrivée du web, et l'arrivée du web est concomitante avec l'arrivée des premiers gratuits que tu évoquais, 20 minutes et Métro, voilà, donner de la main à la main, arrive à ce moment-là. Après, le phénomène de concentration des médias et le rôle des milliardaires dans cette histoire, je le différencie un petit peu de ça. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est quelque chose aussi qui est voilà, propre au modèle français, mais pas inédit. mais on est quand même caractérisé, là, c'est les chiffres que je donne dans Mieux s'informer, 80% de la presse en France est possédée par des grands médias. Mais il n'y a pas que ça. Et en fait, il faut le dénoncer parce que ça a des méfaits. Et donc là-dessus, Reporters sans frontières le fait très bien. Le collectif Stop Bolloré, Informer n'est pas un délit, dans lequel je m'investis à titre titre personnel, voilà, on essaye de dénoncer les méfaits de cette concentration des médias, parce que on sait très bien que quand Bolloré, pour pas le nommer, rachète une rédaction, il la dépouille, hein, voilà, il crée des conditions qui font que les plumes doivent partir, ne peuvent plus travailler dans les mêmes conditions qu'avant, et les remplace par, moi j'appelle ça peut-être plus une ferme à contenu, et ça devient très compliqué. Et c'est important que les journalistes puissent faire leur métier dans de bonnes conditions, mmh. et ça lamine par le bas les conditions de travail. Et dans les médias, le monde et nous, j'explique ça. J'explique que, d'un côté, cette défiance dont on parlait au début, de pourquoi les gens ressentent cette défiance, elle est normale, faut l'accueillir, voilà, cette émotion-là et ce ressenti, il est réel, donc parlons-en. Mais comprenez aussi que les conditions de travail des journalistes ont évolué. Et on parle beaucoup de la dégradation des conditions de travail à l'hôpital ou dans l'éducation nationale. Bah, dans notre métier de journaliste, c'est pareil. On est pressurisé, on a moins de moyens pour aller sur le terrain, on est des journalistes Shiva, on doit tout savoir faire, et vite. Et donc ça a des effets. Et puis il y a des, avec les réseaux sociaux et le web, ce que ça a ajouté, c'est la rapidité avec laquelle une information fait le tour du monde et la quantité de copier-coller. Il y a deux tiers de l'information qui est un copier-coller, en fait. Donc, les agences de presse produisent des dépêches qui sont reprises par les médias et après, ça va très, très vite. Voilà. Et ça, c'est le flot majoritaire d'informations que l'on reçoit au quotidien. C'est le flot que la majorité des gens voient. Et moi, tout le sens de mon propos est de dire, bah oui, cette réalité-là, elle existe. Alors, c'est pas parce que ça existe que tout ça fait une avalanche de contenu qui serait uniquement insipide ou pas bon ou nocif. On a de très bons journalistes, de très bonnes émissions dans ces médias aussi. Il faut apporter un peu de nuance, ne pas en faire une généralité. On arrive quand même à faire des choses dans des médias propriétés de certains milliardaires, mais ça lamine les conditions de travail par le bas, et puis ça éveille des soupçons. Et donc, il suffit d'avoir un éditorialiste soutenu par un de ces milliardaires qui prend la parole ou qui dit des bêtises dans les colonnes d'un journal qui à côté essaye de bien faire son taf, ça casse toute la réputation du titre. Donc ça met les journalistes dans des conditions de travail très compliquées. Donc c'est pas tant le journaliste qui pose problème que les conditions de travail et le système dans lequel il l'exerce. Et c'est ça, moi, que j'essayais de dénoncer, c'est dire ce système capitaliste qui essaye aujourd'hui de capturer notre attention, de faire de l'audience, du clic, etc. Et en plus avec le gratuit, il nous transforme aussi dans une compétition à la notification, à l'alerte, etc., ne peut pas nous permettre de faire de la bonne information à long terme. Et donc, il est nécessaire de questionner ce système-là, de revoir le cadre réglementaire qui encadre le métier aujourd'hui et de faire en sorte qu'on puisse avoir des garanties d'indépendance quand on est journaliste dans ce type de rédaction. Et à côté de ça, toute la presse n'est pas cette presse-là. Il y a aussi plein de médias indépendants, plein de pigistes qui essayent de proposer une offre, on va dire, différente, avec plus de garanties. Et souvent, ces supports-là, ces médias-là sont moins connus. Et donc, c'est important aussi de les valoriser et de montrer qu'ils existent.
Un autre point, moi, qui me semble avoir fait basculer les médias, c'est les médias sociaux et l'impact que ça peut avoir. En tout cas, moi, la lecture que j'en ai, mais tu vas me dire, et je serais très curieux d'avoir ton point de vue, je me dis, en fait, les médias, ils ont joué le jeu des médias sociaux. Et pour jouer le jeu des médias sociaux, ils ont compris quand même les algorithmes. Et un des trucs que l'algorithme fait, c'est évidemment le clash. On aime bien ça. Ouais. Et j'ai l'impression que les médias se sont engouffrés dans ce truc du clash. Se sont aussi engouffrés dans l'information en deux minutes parce que les gens ne lisent plus. Cette croyance, et que les podcasts justement montrent que c'est pas vrai, mais que cette croyance que les gens n'ont pas envie de passer du temps à s'informer, etc., et du coup, avec de l'information qui est complètement binaire et très, enfin voilà, vous voyez, sans nuance et voilà, et très dans le clash. On voit ça en plus particulièrement à la télé. Enfin, Hanouna étant sans doute le fils spirituel de Bolloré, mais l'exemple le plus évident. C'est-à-dire que quand tu mets évidemment une femme voilée face à un mec d'extrême droite, il peut rien se passer, il va rien se passer d'intéressant, en fait. Et je trouve que les médias, ils ont été vachement là-dedans. Ils ont joué le jeu des médias sociaux, ils ont joué le jeu de Twitter, ils ont joué le jeu de l'algorithme. Et ça a aussi détérioré complètement l'offre.
Je dis pas que c'est la faute des journalistes parce qu'ils ont la pression aussi, mais par contre, ça a complètement détérioré l'offre des médias et ça a joué aussi à la décrédibilisation, j'imagine.
Oui, bah oui, c'est des ressorts médiatiques connus que d'aller dans la polarisation du débat, dans la pensée facile. Mais heureusement, il y a quand même des émissions qui sont nées ces dernières années. Alors un peu tard le soir sur certaines chaînes, peut-être moins vues que d'autres, qui proposent des débats un peu plus apaisés, un peu plus nuancés, avec différents types d'interlocuteurs. On peut trouver du coup, voilà. Mais pour moi, quand on est dans ce clash facile qui s'oppose, je pense qu'on fait, on fait marcher un cerveau reptilien. En fait, c'est juste lié aux arènes où on allait observer des combats. Enfin, voilà, et c'est à qui aura le dernier mot, etc. Et c'est ce ressort facile qui est ancré en nous. Mais je crois qu'on regarde ça et que la plupart des gens le regardent en ayant conscience qu'ils sont en train de regarder ce genre de choses. Moi, je me garde toujours de juger en fait ce que les gens font parce que j'ai rencontré tellement de personnes en les interrogeant sur leur régime médiatique que je sais qu'on peut avoir des dures journées, avoir envie de se vider la tête et de se mettre devant Hanouna ou que sais-je, juste parce qu'on a envie d'avoir la télé et juste la paix avec sa télé. Et d'autres, au contraire, ont des boulots chiants et arrivent le soir en se disant bah, « j'ai envie de m'instruire et de regarder un truc qui va me nourrir un peu intellectuellement parlant ». Et donc là-dessus, on est très différents. Et les gens qui vont regarder ces émissions qui font du clash, je pense qu'ils ont toujours un regard en mode… Alors après, j'entends aussi le discours « ah, lui, au moins, il pose les bonnes questions ». Alors ça, c'est,
oui,
voilà,
n'est-ce pas.
On pourrait faire une thèse sur ce genre de choses. C'est quoi une bonne question? Et du coup, c'est important aussi dans cette approche des médias de beaucoup parler de notre fonctionnement personnel, notamment avec les biais cognitifs qui font que parfois on va se conforter, aller regarder des choses qui vont renforcer nos croyances. On a certaines sensations et c'est d'ailleurs tout ce qui fait le lit aujourd'hui des fake news, du complotisme, de la pensée facile. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est important d'équiper, de s'outiller et de comprendre qu'on peut reprendre la main là-dessus, qu'on a le pouvoir en fait, mais qu'on a été complètement anéanti par un système de bouche médiatique. Alors quand je dis bouche médiatique, c'est vraiment tous les petits signaux qui nous viennent de gens qui nous parlent de partout, de la pub aux notifications, en passant par multiples supports qui nous envahissent, qui nous laissent plus de temps, qui nous laissent même plus le temps de la relation. Et le temps tout court de la noisiveté, de l'oisiveté, pardon, noisiveté.
Noisiveté.
Le temps de l'oisiveté, c'était mignon ça. Mais du coup, voilà, c'est l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel on est bercé. Mais je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui commencent à ressentir ce ras-le-bol d'être pris dans cette lessiveuse où on ressort, où en fait on a perdu son temps, on est complètement perdu, on n'a rien fait. Et
on n'a pas plus d'infos.
Et on n'a pas plus d'infos. Et ça ressort aussi dans les études qui ont été faites récemment. Et surtout, c'est les jeunes. Il y a 18% des jeunes qui s'informent comme ça beaucoup, mais qui se ressentent fatigués. Bah ouais, en fait, si tu passes ton temps à swiper les infos qui, en fait, sont juste des trucs très brefs, ça ne te permet pas d'aller in extenso, voir quelque chose de plus riche, en fait. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Mais ce n'est pas facile parce que tout est fait pour nous enfermer là-dedans.
Et puis c'est la tyrannie du titre, tu vois, c'est en fait ou du tweet, c'est-à-dire tu vas lire les 140 caractères, mais en fait tu vas jamais vraiment lire le contenu. Mais j'ai l'impression qu'effectivement ça change un peu, mais c'est quand même relativement léger. Un autre point sur lequel je voulais revenir avant qu'on arrive dans les solutions et comment on fait pour mieux s'informer, parce que c'est quand même ça le sujet de notre conversation. Est-ce que les commentaires où l'opinion n'est pas devenue l'information, tu vois, je fais référence au bouquin de Nicolas Truong, La société du commentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'éditorialistes, beaucoup d'opinions, et on n'arrive même plus vraiment à être d'accord sur les faits. et ça aussi, j'ai l'impression que ça casse quelque part la relation entre les auditeurs, enfin les personnes qui regardent, peu importe, ou qui lisent, et les personnes qui créent l'information. Tu vois, le fait de mettre l'opinion en premier alors que les faits devraient primer.
Ben, ça, c'est un vrai souci. Puis le rôle des éditorialistes, en fait, qui prennent la parole à tout bout de champ sur n'importe quel type de sujet, en effet, ils apparaissent dans des colonnes aujourd'hui au même titre que des journalistes qui vont faire une enquête ou une investigation. Ça, c'est aussi un effet du web, c'est que tout est mis à plat, il n'y a plus la hiérarchisation telle qu'on pouvait l'avoir dans un journal papier, par exemple. Bon, même, on s'y fait maintenant, mais ça rajoute à la confusion. Et j'en parlais récemment avec une rédaction que j'accompagne en leur disant, mais vous voyez, ce type d'interlocuteur que l'on voit fréquemment dans vos colonnes est décrié par ailleurs comme étant quelqu'un de notoirement climato-relativiste. Pourquoi continuez-vous à donner la parole à cette personne parce que à côté, vous avez pris des engagements qui vont à l'inverse de ça, quoi. Et je comprends pas. Et la majorité de journalistes disent, bah oui, on sait, mais c'est pas nous qui choisissons, quoi. Donc il y a aussi des deals qui sont faits à d'autres niveaux de hiérarchie pour des raisons clairement. Et ça, je l'ai vu dans plein de rédactions. Là, je t'en parle d'une, mais il y en a une autre qui m'a témoigné aussi sur un éditorialiste bien connu. Mais on sait que ça fait, et là je le sais, ça fait du clic, ça fait de l'audience. Donc c'est lu. Comme c'est de l'opinion, c'est quelque chose qu'on va aller chercher, on va lire parce qu'on est attaché à cette personne et qu'on s'identifie et que du coup on va se conforter là-dedans. C'est important aujourd'hui, mais c'était pareil avant le web. C'est important de toujours aller essayer de lire des choses qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'on pense. Mais est-ce qu'on le faisait plus avant à lire à la fois Libé et Le Figaro, par exemple, avant le web? Je suis pas sûre que les gens prenaient vraiment le temps d'aller lire des choses différentes. Donc voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile d'aller voir des avis variés et que du coup, si on se débrouille bien, voilà. Mais s'auto-challenger et se permettre du coup de composer sa pensée avec mesure, pour moi, est une mesure de survie aujourd'hui intellectuelle pour ne pas tout gober et s'auto-questionner aussi sur certains biais qu'on peut avoir, évidemment.
En fait, pour rappel, Éric Zemmour, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. C'était, je ne sais pas, c'est toujours un éditorialiste. Pour revenir sur ce que tu dis sur, je ne sais pas si les gens lisaient Le Monde et l'Humanité ou je ne sais pas, Le Figaro et l'Humanité, on va dire, ça s'oppose un peu plus en même temps. Par contre, il y a un truc qui a bougé, il me semble, c'est que quand tu lisais le journal, ce que je n'ai jamais fait, pour être sincère, mais en fait, tu avais quand même accès à plein d'informations sur plein de sujets différents. Ce qui n'est plus du tout le cas non plus avec le digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu lis et tu consommes a priori ce qui t'intéresse et donc le reste tu le laisses un peu de côté. Et ça, c'est un gros bouleversement, c'est-à-dire sur ta compréhension du monde, en fait tu consommes et tu reconsommes, alors soit de l'info en continu, ce qui est le truc sans doute le plus inutile et le plus horrible et sans doute qui abîme tes capacités cognitives. Et puis sinon tu vas consommer des gens qui sont d'accord avec toi, donc là on peut parler des bulles de filtre. Mais aussi vraiment des sujets sur lesquels tu t'intéresses et pas les autres. Et donc, tu as une compréhension très partielle. Même si c'est compliqué d'avoir une compréhension totale, hein, je veux dire, personne ne l'a, mais...
Mais ça, c'est la manière dont on peut se mettre dans une bulle informationnelle, en fait, tout simplement. Donc, et c'est renforcé parce que chaque clic qu'on fait pour le peu... qu'on accepte les cookies, du coup on est suivi dans les comportements qu'on a en ligne et ça se retrouve aussi bien entendu sur les réseaux sociaux. Moi j'avoue que plus ça va et moins je like les choses parce que je sais qu'après on va me ressortir ces contenus là. Donc plus ça va et moins je le fais. En fait je sauvegarde les publications. Ça m'embête de pas liker tout le temps. mais je m'auto-limite volontairement parce que j'ai l'impression qu'on va après du coup me faire ressortir des choses en permanence et que du coup ça m'empêche de voir le reste. Et cette manière dont les algorithmes travaillent en fonction de nos clics, vont faire monter certaines personnes ou certains contenus plus que d'autres, moi je me sens pas. Donc c'est pour ça que dans Mieux s'informer d'ailleurs, je donne des outils pour ne plus subir ça et dire en fait vous avez le droit de vous équiper différemment pour garder la main et vous faire un petit corpus de sources d'informations sur mesure qui iront vous nourrir comme vous l'avez désiré et qui en même temps ne vous empêchent pas d'avoir un aperçu de contenu que vous ne seriez pas allé chercher autrement. Et ça, c'est pour moi, cette liberté-là, elle est essentielle aujourd'hui.
Alors justement, on va y venir. C'est quoi la permaculture informationnelle? Comment ça fonctionne? Comment on peut s'assurer que effectivement, on a les bonnes sources d'informations? Parce qu'on pourrait être tenté, t'en parles d'ailleurs, de ne pas s'informer du tout et en fait, en vrai, de se rendre compte que finalement, ça ne change pas grand-chose.
Bah, oui, alors c'est ça. Ça, c'est ce que j'explique au début du livre parce que entre la sortie des médias Le Monde et Nous et Mieux s'informer, il s'est passé donc de 2019 à... Ouais, il s'est passé bien 3 ans. Et donc, dans les médias Le Monde et Nous, je mettais un petit régime informationnel à la fin qui était un prototype, une idée que j'avais de dire bah, on peut faire des détox. Moi, on peut faire des jeûnes. Hein, y a des gens qui le font. Bah, pourquoi pas le faire sur l'information? Et donc, je proposais un régime qui commençait par 3-4 jours de descente alimentaire et de, en gros, voilà, faites un jeûne. Ne vous informez plus volontairement pendant plusieurs jours. Voyez ce que ça vous fait et après, vous allez introduire différentes sources d'informations. Le régime proposait ça et donc Mathieu Baudin à l'Institut des Futurs Souhaitables, voilà, le collectif me dit mais on adore ton idée, on trouve que c'est une arme de construction massive, viens on va la tester. Donc on part avec 70 personnes volontaires en disant ouais nous on va faire ça. Alors ils ont tous un mal de chien à se défaire des sources d'information. Pendant 3-4 jours j'ai des témoignages en mode mais waouh c'est trop compliqué, est-ce qu'on doit trop couper, enfin ils étaient tous perdus. Donc on a bien rigolé. Et j'en ai perdu en route hein, dans cette histoire. Et au final, quand au bout de 3-4 jours, voilà, c'est bon. Ben là, j'ai eu des témoignages d'une beauté. Ah ben, je me sens beaucoup mieux. En fait, c'est comme si je m'étais libérée de quelque chose. Ça m'offre du temps. C'est très différent. Et là, j'ai eu encore un mal de chien à dire. Mais en fait, l'idée, c'était de vous orienter vers d'autres sources d'informations. Donc, pour mieux s'informer, j'ai un peu changé la méthode. Du coup, je l'ai adaptée en fonction de ces feedbacks que j'ai eus, de retours d'expérience. Et en fait je pose plein de questions parce que la première des questions pour moi est se dire est-ce que vous avez conscience de votre manière de vous informer, et c'est là que vient le petit exercice de permaculture informationnelle. Alors si je peux le détailler, c'est bien en sûr, permaculture quand on fait son jardin, on va le dessiner, le designer en fonction de différentes zones. Donc la zone 0, c'est là où on habite, où on est tout le temps. La zone 1, c'est là où on va toutes les semaines. La zone 2, c'est là où on va tous les mois. La zone 3, c'est là où on va... Enfin bref. Et donc du coup, c'est des espaces qu'on fréquente plus ou moins, jusqu'à la zone 5, qui est la zone où on friche, en fait. Où on ne touche pas, surtout pas, parce que c'est un lieu préservé, libre évolution... interdit d'y aller. Et donc, j'explique, je dis, voilà, bah, sur votre régime informationnel, c'est pareil. Posez-vous et réfléchissez à tous les réflexes, à tout ce que vous consultez tous les jours, à toutes les informations qui vous arrivent, quelles qu'elles soient. Réseaux sociaux, médias...
Y compris, voilà, les profils perso, parce qu'en fait, on n'y pense pas toujours, mais les profils perso sur les réseaux sociaux, c'est de l'information.
Exactement. Donc là, je dis, passez tout au scanner. Réfléchissez à comment l'information vous vient, comment vous vous tenez au courant de l'actualité du monde. Et vous le notez. Et donc, cet exercice, je l'ai fait avec plein de mes étudiants. Et du coup, les gens, ils dessinent, puis ils se regardent et ils se rendent compte qu'il y en a qui ont mis la télé en zone 5 et l'autre qui la regarde encore avec leurs parents tous les soirs en regardant le JT, par exemple. Il y a des habitudes très différentes. Du coup, l'information, elle n'est pas du tout de la même manière. Du coup, ils échangent là-dessus. Et ça en fait déjà un sujet de conversation. Rien que ça. Faire un sujet de conversation de son régime informationnel, c'est toujours hyper stimulant parce que là, on comprend les influences intellectuelles, les habitudes, la capacité ou non à avoir des sources variées ou non. Enfin, et ça fait ressortir aussi les sources les plus consultées. Chez les plus jeunes, moi, chez mes étudiants, c'est intéressant de voir aussi quels sont les influenceurs, par exemple, qui sont le plus consultés, etc. Ouais. Et à partir de là, une fois qu'on a fait ça, c'est se dire, bon, bah, est-ce que je suis bien avec ça? Est-ce que ça me coûte? Est-ce que j'ai la sensation d'être bien informée? Oui, non. Et de se dire, c'est quoi une bonne information, en fait? Pour moi, à titre personnel, pour moi, à titre de professionnel, pour moi, à titre de curieux dans la vie, de citoyen qui a envie de s'informer sur l'état du monde. Et puis, accessoirement, pour notre société, c'est quoi une bonne information? Et c'est quoi qui va nous faire progresser, non, pas dans le sens du progrès moderne, mais vers peut-être plus de liens sociaux, de défense de l'intérêt commun, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon prisme, en tout cas, il est là, ma quête, elle est là. Et ces questions-là, elles sont fondamentales, mais on l'a oublié. Alors, en plus, avec l'information gratuite, on a l'impression que l'information est gratuite, donc du coup, que sa production pourrait être gratuite, alors qu'en fait, la bonne information, elle coûte cher en temps, en heure, en travail, en investigation, et que cette information d'investigation, en plus, elle a des effets bénéfiques pour la société. Ça, c'est prouvé par les travaux d'économistes qui analysent ça. Donc, voilà. Et donc, à partir de ce petit bilan qu'on peut faire, on peut aller très loin ensuite dans la manière, du coup, de redécouvrir le paysage médiatique. Et c'est pour ça que, moi, pareil, cette enquête m'a fait réaliser qu'on a une connaissance assez parcellaire du monde des médias français ou étrangers d'ailleurs, qu'on va avoir tendance à consulter toujours les mêmes sources. C'est un peu ce que Eric Fotorino dit quand c'est l'effet du menu du restaurant chinois, quoi. Il y a pléthore de trucs, mais en fait, on choisit toujours les mêmes choses. Et l'idée était de dire, bah, voilà, il y a le flot d'informations tel que vous le connaissez avec les grands médias. Et derrière, il y a la capacité à sortir la tête de ce fleuve, sortir la tête de l'eau, prendre du recul et aller voir un petit peu tout ce qui se fait en fonction de vos besoins. Et, et c'est pour ça qu'avec Natacha Bigan, donc la graphiste avec qui je travaille depuis tout ce temps sur ces questions de médias, là, on vient de terminer une nouvelle version de la carte du paysage médiatique français qu'on a sortie en 2020 et qui a eu un succès assez dingue, qui est très utilisée. Donc là, on l'a dessinée à la main. On est beaucoup plus exhaustif dans les sources d'information. Et l'idée, c'est qu'on va la proposer à l'impression dans une campagne avec un jeu pédagogique pour que les gens puissent justement en faire un sujet de conversation avec leurs proches et de manière ludique aussi. Parce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui et que ça peut aussi permettre de retisser un lien social qui parfois, voilà, les gens étant tellement dans leur bulle que moi j'ai peur aussi que on reste dans nos bulles alors qu'en fait voilà, les visions du monde, les extrêmes nourrissent les extrêmes et que si on n'a plus d'espace de rencontre et de nuances et de débats, je crains qu'on ne puisse pas ensemble résoudre les défis et les enjeux qui sont face à nous.
Comment on peut s'assurer que les sources qu'on utilise sont fiables ou vont être fiables? Quand tu dis qu'il faut trouver d'autres sources d'informations, comment je peux m'assurer qu'un média est fiable? Enfin, c'est le bouche à oreille, c'est quoi?
Il y a plein de choses à faire et donc ça paraît dans Mieux s'informer, je donne des petits outils simples qui relèvent de ce qu'on enseigne quand on fait de l'éducation aux médias, qui relèvent de ce qu'on fait quand on est journaliste, c'est-à-dire avoir des réflexes de base de regarder l'URL du site, la date de la publication concernée, la présence du nom d'un journaliste ou d'un auteur ou d'une autrice sur l'article ou le contenu. Voilà, en regarder en fait tout le métatexte qui entoure le contenu en question est très important. Et puis après, il y a des outils qui peuvent aider. Alors, il avait été décrit à l'époque, mais je pense qu'il était assez juste, c'était le Décodex sorti par l'équipe des décodeurs du Monde qui donnait en fait un système de feu tricolore à certaines sources en disant là, c'est pas fiable du tout, là, vous pouvez avoir confiance ou là, on a un doute. Ça avait été contesté parce que forcément, ceux qui se retrouvaient dans le rouge ou dans l'orange n'étaient pas très contents. Mais après, il suffit en fait bien souvent quand on voit une info d'aller voir si cette information est vérifiée ailleurs. Donc en fait, le fait d'aller croiser l'information est important comme réflexe et bien avant d'aller diffuser l'info, surtout avant d'aller le diffuser. Et puis, bien entendu, si vous avez un doute, alors c'est comme les vieilles chaînes de mails qu'on recevait il y a encore 10 ans. Moi, mon réflexe, c'était d'aller sur Hoaxbuster et de dire je vais regarder si c'est pas un énorme hoax qui circule. Oui, voilà. Et ben maintenant, on peut le faire aussi avec un certain nombre de sites qui permettent de fact-checker. Pardon. On peut le faire maintenant avec un certain nombre de sites qui permettent de fact-checker l'information. Et donc, il y a Check News ou l'AFP Factuel ou tout un tas de ressources qui existent. Ou si on a l'impression d'être face à une fausse information, on peut aller vérifier si ces journalistes-là ont déjà vérifié l'info ou si elle n'a pas été vérifiée, vous pouvez la soumettre et voilà. Et après, il y a des méthodes en ligne et des journalistes qui en ont fait une spécialité et qui donnent tout un tas d'astuces pour avoir ces réflexes d'esprit critique et d'assurance en fait qu'on n'est pas en train de se mettre n'importe quoi dans le cerveau. Donc il y a plein de choses à faire.
Mais en même temps, ça prend vachement de temps. Enfin, j'imagine quand les gens ils lisent à peine les titres. Je les vois mal aller checker avec d'autres sources, etc. D'autant plus que un des méfaits du web, c'est que ça nous transforme tous en potentiels complotistes. C'est-à-dire que, en fait, quoi que tu penses, quelle que soit l'information, tu penses que la Terre est plate, tu penses que, je ne sais pas, Obama est un serpent, ce que tu veux, tu vas trouver des gens qui vont être d'accord avec toi sur Internet. Et ça, en fait, c'est très compliqué parce que, dire quand les gens disent « oui, mais j'ai vérifié ». Oui, mais t'as vérifié auprès de qui exactement? Donc, t'as ce problème-là. Et puis, t'as un deuxième problème. Toi, tu parles de l'AFP, etc. Mais si, et je l'ai vu, par exemple, j'ai eu cette expérience avec Hervé Le Braz, donc qui est un historien qui a fait un bouquin sur le grand remplacement et qui est passé, entre autres, sur Sud Radio. Et c'était hyper intéressant de voir les commentaires sous la vidéo qui étaient... enfin, le mec s'appuie sur les chiffres de l'INSEE. On sait bien que l'INSEE, c'est à la botte de l'État. Bon, bah, du coup, si l'INSEE, c'est pas crédible, ça veut dire que rien n'est crédible. Eux ne croient pas ces informations. Donc, du coup, puisqu'il y a un mec XY illuminé qui t'a dit non, mais en fait, il y a vraiment un grand remplacement, Akaz Eric Zemmour. Lui, il n'en sait rien. Enfin, je veux dire, et puis, clairement, il s'appuie sur rien, il n'y a que des croyances. Mais n'empêche que les gens, ils sont convaincus. Donc d'abord, ce que je te disais, quand tu vérifies sur Internet, tu trouves toujours des personnes qui pensent la même chose. Si tu tousses, peut-être que tu as un cancer des poumons. Enfin, tu vois, c'est le fameux effet Doctissimo. Et puis, de deux, les gens n'ont même plus confiance dans les institutions auxquelles tu fais référence. Ça, c'est un deuxième problème, je trouve.
Ouais. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut s'en prémunir. En fait, il faut aller plus loin que les simples titres. Moi, ce qui me rassure, c'est que quand j'échangeais avec mes étudiants, je voyais bien qu'en effet, voilà, on va dire, ils s'informent beaucoup sur Instagram. Ils vont suivre quelques influenceurs, disons Hugo Décrypte ou quelques journalistes même. Et quand ils sont vraiment captés par une information, généralement, alors c'est que de l'empirique, mais il y avait quand même ce réflexe de remonter à la source. Les influenceurs les plus sérieux ont tendance quand même à bien indiquer leurs sources en dessous. Donc, c'est assez facile d'aller vérifier. Et moi, j'ai toujours été plus inquiétée par les plus âgés que par les plus jeunes. Parce qu'en fait, les jeunes, on leur dit du départ, fais gaffe. Alors, son problème, c'est qu'il passe trop de temps, et qu'il finit fatigué et que.
Et ils ont une culture du boxe aussi.
Exactement. Alors que les plus âgés, ils étaient déjà un peu plus vieux quand sont arrivés tous ces outils avec plein de notifications, et on a une façon de s'accoutumer à tout ça qui est, quand on est boomer, c'est plus compliqué, mais c'est juste, ça a toujours été comme ça. Et moi-même, quand je vois des outils sortir, je vois que ma fille, elle a bientôt 12 ans, elle est beaucoup plus aguerrie que moi sur certains trucs, et je lui demande même parfois de me dire j'ose lui dire comment tu fais pour qu'elle m'apprenne, parce que moi, j'ai pas envie d'aller me renseigner là-dessus, mais je sais que ça fait partie de son monde et de la capacité des outils dont elle va s'emparer pour grandir et pour s'informer. Donc, j'ai besoin d'échanger avec elle aussi pour me former avec elle. Mais ça va très vite, tout ça va très vite. Et c'est pour ça qu'on est vite désemparé et perdu. Et donc, décider un jour de se dire, quoi qu'il arrive, je doute, je mets en place mon esprit critique, je me méfie de mes propres biais et je m'efforce d'aller vérifier les choses, c'est juste un réflexe de santé publique pour moi. Par exemple, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je pense que ça va rajouter encore une couche de contenu dont on ne saura pas la provenance. Mais derrière l'intelligence artificielle, il y aura toujours une intelligence humaine désireuse de manipuler ou de faire croire quelque chose. Donc, ça sera aussi important de remonter à la source du prompt et de la personne qui a donné la commande à l'intelligence artificielle parce qu'il faut être très malin aujourd'hui pour bien parler avec une intelligence artificielle et lui faire produire ce qu'on veut. Donc, tout ça, c'est une mise en abîme qui est juste passionnante, vertigineuse aussi, quoi. Et c'est important, pour moi de bien l'avoir en tête, parce que les réflexes seront les mêmes quoi qu'il arrive, quelle que soit la technologie, les réflexes restent les mêmes.
Et qu'est-ce que tu dis aux personnes, et j'en connais plein étrangement, qui te disent non mais moi je peux pas me faire manipuler, c'est pas pour moi la manipulation. Je trouve ça toujours fascinant. Des gens qui pensent qu'ils sont pas manipulés, alors qu'on l'est tous, pas pour mémoire, mais
tomber dans un panneau, ça arrive à tout le monde. Même nous journalistes, ça nous arrive quand on fait des bourdes, on se trompe, et manipulé ou pas, même sans en arriver là, on peut se faire avoir, quoi. Et la manipulation, elle arrive quand vraiment, je pense qu'on n'est pas vigilant. Je regarde un reportage l'autre jour sur les gens qui font du porte-à-porte et qui font des arnaques. C'est une forme de manipulation. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose, mais en virtuel. Donc, tant mieux s'ils ont la sensation de ne pas l'être et qu'ils sont heureux comme ça. OK. Mais la vraie difficulté, c'est En fait, avec ouais, comment est-ce qu'on discute avec quelqu'un qui est vraiment sûr de lui, qui est tombé dans du complot ou dans la fake news et qui est convaincu de choses fausses, en fait. Et ça,
bon, on l'a vu pendant le Covid.
Moi, que, oui, et là-dessus, j'avoue que je suis, j'ai pas de, comment dire, il faut être assez malin pour détourner le centre de gravité de la conversation dans ces cas-là, pour pas y aller en frontal parce que ça peut être violent. Les gens qui sont convaincus de ça, ça touche des ressorts intimes. Et si on y va, si on démonte la chose trop brutalement ou trop frontalement, ça peut générer des réactions de blocage ou même de conflits assez importants. Hein. Thomas Huchon, qui a beaucoup écrit et fait des films sur ces phénomènes de fake news, en a fait les frais. Il s'est pris lors d'une fête avec des amis, il s'est fait violenter à cause de ça. Donc, faut avoir conscience que ça peut aller très loin. Donc, on n'est pas en train de rigoler. Et moi, ce qui me préoccupe, en fait, c'est aussi les effets de cette manipulation. Quand les gens ne s'informent plus, par exemple, c'est un phénomène qui est très, très répandu au Brésil, où là, la fatigue informationnelle, elle est à plus de 50% de la population, et de l'évitement surtout. Donc, les gens évitent volontairement de s'informer. Donc, je ne connais pas assez les médias brésiliens pour voir s'il y a une qualité détériorée. Mais en l'occurrence, du coup, c'est la porte ouverte à des boucles WhatsApp, à des boucles sur d'autres types de réseaux alternatifs, où on peut du coup s'auto-entretenir, se convaincre de choses avec une communauté de gens qui pensent tout pareil ou qui vont abonder dans le même sens. Et du coup, entretenir aussi, voilà, et des effets qui, à la longue, peuvent avoir des effets délétères sur le contenu des votes, sur des choix politiques, sur... et ça, moi, ça m'effraie un petit peu. Je pense que c'est abêtissant, en fait, aussi, d'une certaine manière. On a le droit de ne pas être d'accord et d'en débattre, mais de là à s'enferrer dans des croyances et à rejeter l'autre parce qu'il ne pense pas pareil, c'est problématique au niveau de la... Je ne sais pas comment on peut générer du vivre ensemble dans ces conditions.
Parce que c'est ça, le truc à la fin, c'est qu'on a besoin de vivre ensemble. On a besoin d'être en
mais
démocratie
on a surtout
et de vivre
ensemble. On a surtout, excusez-moi l'expression, des putains de challenges devant nous, de changement climatique, d'extinction du vivant, de pollution à gogo, de choix de société très importants à faire. Si on laisse, se faire des choses politiquement parce qu'on sera incapable de réagir de concert ou d'en débattre ensemble, je vois pas, ça va aller que de mal en pis. Et c'est pour ça que moi, je lis beaucoup ces questions d'information et d'écologie, parce qu'elles sont très liées dans le cheminement des choses, en fait, tout simplement. On a devant nous des défis énormes qui impliquent du débat citoyen et des dimensions de démocratie importantes. Il faut s'en emparer. Et sans bonne information, ça ne marche pas.
Mais alors, du coup, justement, parce que tu parles de changement climatique, mais enfin, de manière plus large, parce que ce n'est pas qu'une question de changement climatique, évidemment, c'est l'extinction du vivant. Est-ce que cette l'anxiété que ça génère, est-ce que ça, ce n'est pas le super terrain, on va dire, pour justement que naissent des idées très binaires sur... moi, j'ai entendu... bon, évidemment, j'ai entendu des climato-sceptiques qui me disent non, mais c'est pas lié à l'homme ou il n'y a pas de réchauffement climatique. Mais j'ai aussi entendu dernièrement un truc encore plus glaçant. Bah, si ça se trouve, après tout, les dinosaures, c'était des animaux à sang froid, ils sont morts parce qu'il y a eu les météorites, ça a réchauffé la planète. Et bah, finalement, peut-être que là, on arrive dans une période où les animaux à sang chaud, y compris les humains, doivent disparaître. Et voilà, c'est l'histoire de l'humanité, quoi. C'est l'histoire de la vie sur la Terre et que demain, ça sera une planète peuplée de serpents et d'animaux à sang froid de manière générale, comme c'était le cas au moment des dinosaures. Tu vois, j'ai aussi ces informations-là qui m'arrivent. Et tu vois, je me dis, waouh, tu vois, il y a vraiment plein de... Et j'ai l'impression que, justement, ces challenges qui sont monumentaux, alors d'abord, les gens ne sont pas très bien informés sur le sujet, mais en plus, ils sont propres à générer des avis hyper binarisants, j'ai l'impression.
Bah, c'est normal, parce que, c'est, comme tu le dis, ce sont des sujets à tendance anxiogène. Ce n'est pas confortable de se poser ces questions. Pendant longtemps, elles n'ont pas été palpables. c'était loin, c'était l'ours polaire lointain, c'était la sécheresse en Afrique, c'était We Are the World, quoi. Enfin, ok, génial. Mais là, en l'occurrence, ça se multiplie et ça arrive. C'est l'incendie cet été en Gironde, en Bretagne, les canicules à Londres, des choses qui sont plus palpables. Et voilà. Et ce qu'on sait de surcroît, c'est qu'il y a une désinformation organisée. Naomi Oreskes, historienne des sciences aux États-Unis, Christophe Bonneuil, historien en France, ont enquêté sur Exxon et en France sur Total, en montrant que dès les années 70, ces industries fossiles criminelles climatiques, en fait, savaient très bien ce qu'allait se passer, que la hausse de particules par million de CO2 dans l'atmosphère allait être celle qu'on connaît aujourd'hui, et n'ont rien fait. Et pire, ont agi de manière à cacher les effets de leurs activités. Donc, il y a eu un mensonge organisé, une désinformation, une propagande. Ça, c'est documenté aujourd'hui. Donc, on sait très bien que voilà, il y a des ONG américaines qui continuent de documenter ces phénomènes de désinformation. Les influenceurs peuvent être instrumentalisés en ce sens. Les campagnes de publicité, les algorithmes peuvent être utilisés en ce sens. Et là, il y a encore un rapport de la Fondation Jean Jaurès qui expliquait aussi comment se construisait ce type d'opinion un peu défaitiste, un peu relativiste, voilà, dans certaines franges de la société, en plus, en surfant sur justement ces sentiments de ne pas appartenir aux mêmes classes sociales. Et donc, du coup, l'écologie serait forcément un truc de bobo blanc, voilà, qui ne concernerait pas ceux qui... voilà. Et donc, quand on rajoute cette dimension de justice sociale sur ces questions d'écologie... voilà, ça montre bien que ça va être très compliqué et que justement, on devrait avoir une parole beaucoup plus partagée. On devrait pouvoir entendre parler ceux qui triment le plus en étant le responsable, en ayant une responsabilité bien moindre. Et donc, c'est par la conversation, c'est par la médiation qu'on y arrivera. Si on s'enferme dans des croyances sous couvert de ne pas vouloir y toucher parce que ça ne me concerne pas ou parce que j'en ai peur, c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Ou alors, d'autres vont s'en emparer et ils ne vont sans doute pas le résoudre de la meilleure des manières. Donc, c'est inquiétant, en fait, quand on touche à ça. Mais il y a des travaux, là. Vous allez sur un site comme Skeptical Science. Donc, c'est les sciences sceptiques, en anglais. Je le prononce mal. C'est dur à dire. Mais en fait, c'est un chercheur qui a vraiment documenté toutes les techniques de déni climatique. Et donc, quand je dis qu'aujourd'hui, il faut s'outiller pour entrer dans le débat public, c'est aussi comprendre que quand on entend tel éditorialiste qui est climato-relativiste, il va faire du cherry-picking. Il va prendre un fait, le sortir de son contexte et le détourner pour arriver à sa démonstration. Y en a qui parlent sur des radios publiques tous les matins et très adeptes de ce type de technique. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire savoir. Y en a d'autres qui vont avoir d'autres types de... voilà, on va contourner la réalité, on va surfer sur la vraisemblance. Enfin, tout ça, c'est autant de techniques qui existent pour biaiser. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, elle est où la vérité aujourd'hui? On ne sait pas. Mais la réalité, on peut s'en rapprocher avec le plus de neutralité possible. Ça, c'est le métier de journaliste. Mais voilà, il faut savoir qu'on navigue dans cette complexité, dans cette multiplicité de discours et d'opinions et de croyances et que il faut... c'est comme une jungle, quoi. Et c'est pour ça que là, avec un bout des médias et de compères, on est en train de travailler à un jeu pédagogique pour essayer de faire comprendre quels sont justement tous ces ressorts et ces menaces auxquelles on est soumis malgré nous, en fait.
Et justement, je voulais revenir, mais je me disais en t'écoutant, qu'est-ce qu'elle pense des médias individuels, comme c'est le cas de Volant? Donc bon, t'es pas obligé de dire du bien, c'est certainement pas le sujet, mais en fait je suis curieux de comprendre comment une journaliste regarde des podcasts de personnes qui ne sont pas journalistes, moi je suis pas journaliste, et qui traitent de l'information et sur lesquelles beaucoup de gens s'informent malgré tout.
Moi j'ai commencé ma carrière en étant blogueuse, enfin je faisais ma thèse d'économie et en parallèle j'étais blogueuse. Donc du coup je sais ce que c'est que de parler en partageant des convictions, en faisant de l'information sans avoir le statut de journaliste. Par contre, quand je suis devenue journaliste, en effet, je me suis appliquée une déontologie que je n'avais pas quand j'étais blogueuse, où j'étais plus dans ma tête, je pense, une activiste. Voilà. Je reste engagée aujourd'hui sur les sujets qui sont les miens, mais c'est pas la même posture, on n'écrit pas de la même manière. Y a quelque chose qui change. Moi, je trouve ça génial d'avoir aujourd'hui des personnes comme toi ou d'autres qui, fort de ces outils de communication qui sont maintenant devenus monnaie courante, s'en emparent pour faire du contenu. Parce que ça a fait émerger des paroles qu'on n'entendait pas auparavant, ce qu'on appelait les professionnels amateurs pendant un moment, qui ont pu avoir des effets bénéfiques sur l'état du débat public. Et c'est pas pour rien qu'une partie de la population, s'est mise à écouter les podcasts, à regarder Thinkerview, à citer ça comme les meilleures sources d'information. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que là où les médias voulaient faire du rapide, vite fait, d'autres allaient passer une heure et demie à écouter des échanges avec des... Donc voilà, après, c'est là qu'il faut se dire, en fait, Grégory, c'est qui ce gars? Il parle d'où? C'est quoi son objectif? Qu'est-ce qu'il veut me vendre? Enfin, voilà. Et ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Mais le journaliste peut être soumis aux mêmes choses. Mais quand on fait partie d'une rédaction, il faut aussi savoir qu'il y a un processus de validation, en principe, par une rédaction, par des gens qui vont relire, par des gens qui vont questionner, par un rédacteur en chef qui... voilà. Et si on peut être critique en se disant, les médias possédés par Bolloré, ça a des conséquences. Il y a plein d'autres médias où, en fait, le fait d'avoir cette rédaction est aussi un énorme gage de garantie et de confiance. Donc la question, c'est toujours se dire qui parle, depuis où, et voilà. Je pense à Thomas... Thomas de Bonpote sur les questions d'écologie, depuis sa posture et sa façon de questionner, d'utiliser les réseaux sociaux, il a aussi secoué le cocotier à sa manière et permis de faire émerger parfois des sujets qui ne pourraient pas émerger de la même manière. Le côté poil à gratter fait du bien au débat public. Et y a plein d'autres exemples dans plein d'autres domaines, que ce soit sur la parole, des médecins, la parole des caissières, la parole des femmes de ménage, la parole de plein de personnes qui n'auraient jamais pu s'exprimer ou à qui on n'aurait jamais donné la parole si ces outils n'avaient pas existé. Donc moi, je pense que c'est juste formidable. Je suis juste très méfiante de ceux qui en ont un usage à des fins purement mercantiles, comme les influenceurs qui vont se montrer à Dubaï ou que sais-je encore, ou avec leurs gamins, ils font vraiment pas attention à mettre leur... Enfin, moi, tout ça, je dis attention. Et puis les effets que ça a aujourd'hui, j'en parlais avec ma fille l'autre jour sur fais attention quand tu vois les contenus avec ses filtres, ses grosses lèvres, ses machins, quand on voit les chiffres de la beauté esthétique, enfin de chirurgie esthétique qui montent en flèche chez les jeunes, en fait, là aussi, ça a des conséquences sur l'image même qu'on se donne de soi et de la beauté. Je pense que c'est tout ce qu'on dénonçait dans les années 90 avec les magazines beauté et tous ces mannequins sur papier glacé, on disait attention, anorexie. Là, je trouve qu'il y a un effet aussi un peu pareil, mais sauf que ça s'est déplacé sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Mais derrière, c'est toujours dire, mais réalise que cette personne qui te parle, là, pour le coup, elle est en train de faire du business. Elle a montré sa marque ou elle veut vendre un truc. Elle va te parler du chirurgien machin qui... Enfin, voilà, il faut juste le savoir. Et à partir de là, c'est OK pour toi, c'est pas OK, mais au moins, tu le sais. Voilà. Mais la posture n'est pas la même que celle d'un journaliste qui ne fait que de l'information sans avoir de choses à vendre derrière.
D'agenda. Mais est-ce que toi qui as été blogueuse en plus, c'est d'autant plus intéressant, j'entends ta réponse et je vais te challenger un peu plus, mais j'imagine que ça sera la même. Est-ce que un blogueur, un podcasteur, je dirais pas un influenceur, parce que c'est vrai que les influenceurs, ça dépend de qui on parle, c'est-à-dire que Hugo Décrypte, pour moi, c'est pas vraiment un influenceur.
C'est un média.
C'est ça, c'est un média. Ou Thomas, on leur passe le bonjour. Est-ce que c'est pas une subjectivité assumée versus chez les journalistes, une sorte de... On est censé être objectif, mais on sait très bien que personne ne l'est. Est-ce que justement c'est pas appréciable cette subjectivité assumée versus une subjectivité qui est cachée?
Ça, en fait, je l'explique dans Les médias, le monde et nous. Le premier gros bouquin, je reviens en longueur là-dessus, en expliquant qu'aujourd'hui, l'objectivité qui a été en fait quelque chose dont les journalistes se sont... glorifié, c'est pas le bon terme, mais en disant voilà, nous notre devoir c'est d'être objectif, ça j'y crois pas. On parle toujours depuis un milieu culturel, social, une éducation, et on fait toujours des choix subjectifs dans la hiérarchie de l'information, dans le choix même du sujet, dans la manière de en fonction de là où on traite le sujet. En plus, on a déjà Donc non, je pense qu'il faut, il faut laisser de côté cette notion d'objectivité, surtout comme tu viens de le dire, dans ce monde où tout le monde prend la parole à la première personne avec sa subjectivité. Et c'est pas pour rien que tous ces récits à la première personne fonctionnent bien, c'est qu'on va chercher une histoire très personnelle, avec du vécu, de l'émotion, enfin... Et c'est voilà, notre métier de journaliste, c'est pas de faire ça. Ça peut être une technique narrative à la rigueur, et elle marche bien dans certains cas. Mais je pense que pour nous, l'idéal est de dire voilà d'où je parle, voilà sur mon terrain d'enquête, avec quelle posture je suis arrivée, avec quelle idée préconçue je suis arrivée. Voilà ce que j'ai pu découvrir et que je vous raconte dans mon récit et qui a pu peut-être me faire bouger, me faire changer, me faire comprendre les choses autrement. Ces encarts-là, 21 par exemple, les a je ne sais pas s'il continue de le faire, mais il le faisait pendant un temps avec Léna Mauger, permettait juste de mettre un encart qui donnait le contexte. Dans mon dernier, un de mes derniers livres, L'Enquête sauvage, je le mets au début, je dis, voilà, moi, je suis une femme blanche de 40 ans, mère de 2 enfants, issue d'un milieu plutôt favorisé, convaincue de la nécessité d'agir pour l'écologie, et voilà d'où je vous parle. Et je le fais parce que je pense que c'est important de le faire. Je n'aurais pas du tout le même récit que quelqu'un qui vient d'autre part. Et cette transparence, pour moi, elle est juste très importante. Après, notre métier de journaliste est de dire, on est peut-être subjectif, mais le travail qu'on effectue et la rigueur qui doit être la nôtre, la déontologie avec laquelle on doit travailler dans la façon de trouver les faits, de les vérifier, d'aller chercher les contradictoires, doit nous amener à être le plus neutre possible dans la façon de transmettre cette information. Alors, je sais qu'aujourd'hui, je me pose beaucoup dans les médias Le Monde et Nous sur la question de l'engagement. Je pense que l'engagement est important. Il est important en termes de valeurs, notamment quand on traite de ces questions d'écologie. Je trouve que l'engagement, c'est ce que disent les Anglais sur le engager une conversation, et c'est aussi un engagement de confiance. Donc dire, voilà, moi je vous parle depuis là, mes valeurs sont celles-ci, et dans la manière dont je vais traiter l'information, voilà ce à quoi je m'engage. Et donc moi, la notion d'engagement, je l'entends comme ça, parce qu'on peut reprocher, ou certains disent je suis journaliste engagé, oui, mais en tout cas, je sais pourquoi je le fais, je sais d'où je parle avec cet engagement-là. Et un journal comme le Guardian, qui est souvent très cité, mais a été un des premiers à analyser depuis sa création, je crois que c'était en 1880, c'est quoi ma raison d'être de journal. Qu'est-ce qu'on va défendre dans les lignes du Scanard, pourquoi est-ce qu'on existe, quelles sont nos valeurs d'humanisme, etc. Dans un monde de post-vérité, quel est le pacte que l'on conclut avec notre lectorat, et comment est-ce qu'on va s'atteler à traiter l'actualité et le monde qui vient du mieux qu'on peut, en informant correctement les gens sur ce qui arrive. Et du coup, dans un monde en crise, la posture journalistique doit changer. On a vu les chefs cuistots le faire, on est en train de voir les ingénieurs le faire, on est en train de voir tout un tas de professions qui se réinventent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus perdurer de la même manière. Bah, dans le métier journalistique, je pense que c'est la même chose. Et c'est ce que j'expliquais dans les médias Le Monde et Nous, c'est nous, journalistes, on doit réinventer notre métier à l'aune du 21e siècle. On ne peut plus raconter le monde comme avant parce que le monde de l'information a changé, le type de médias a changé, la manière de recevoir l'information a été bousculée. Mais au-delà de ça, il y a d'autres problématiques face à nous qui nous demandent pas seulement de relater le présent, mais aussi de questionner le futur et de montrer les réponses qui peuvent venir, et du coup, d'aller avec rigueur enquêter sur ce monde qui vient. Et ça, je pense que ça a un peu changé depuis 2019, la publication de ce bouquin. Je pense que les médias ont enfin compris. Il y a eu pas mal de tournants annoncés à Radio France, Sud-Ouest a fait Déclic, Wisfos s'est enlacé. J'ai coordonné le groupe de travail qui a fait la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et tout ça participe d'un contexte où il y a eu des annonces, des déclarations. Le Monde l'a aussi fait. Voilà. Il faudra qu'on évalue ça dans un an, 2 ans, voir ce que ça a donné. Mais ça participe en tout cas d'une montée en puissance, en tout cas, et d'une façon de percevoir les choses différemment, à dire, bon, ben, on a attendu longtemps quand même, on a attendu plus de 50 ans pour le faire. Donc ça arrive trop tard, mais il n'est jamais trop tard, en tout cas, pour agir et pour proposer autre chose. Et donc ça, pour le coup, tu vois, pour te répondre à cette question de l'objectivité, subjectivité, engagement, voire militantisme, pendant longtemps, on a dit aux journalistes écolos, vous êtes des militants, mais un journaliste éco qui dépend le capitalisme est aussi un journaliste militant de sa cause. Donc du coup aujourd'hui voilà, il faut se dire, attends, milito c'est quoi? Si c'est au service de l'intérêt général, de défendre voilà une information. Bon, ok, je veux bien être militant si tu veux me appeler militant, mais le problème il est même pas là. Il est quelle information je produis. Est-ce que tu es capable de me montrer que cette information que je te produis est fausse dans les faits que je relate, dans les chiffres que je peux trouver, dans les paroles que je peux relater. Qu'en est-il? Et donc là, il faut parler avec voilà des éléments palpables entre les mains qui ne relèvent pas d'une opinion relayée sans vérification, qui relèvent plus d'un contenu qui a été savamment et profondément voilà élaboré. En s'appuyant sur des faits réels, pour le coup. Et donc, ça demande encore plus de temps qu'avant, évidemment. Vu qu'il y a plus d'infos qui circulent et plus de choses à débusquer, ça demande aussi un travail plus important, alors qu'on a moins d'argent qu'avant.
Et dernier point, parce que tu parlais des histoires personnelles, il y a aussi ce truc que j'entends assez régulièrement. Et c'est sans doute pour ça qu'on aime bien les blogueurs, les podcasteurs, et parfois à tort d'ailleurs, c'est que, en tout cas sur ce sujet, c'est qu'il y a, en tout cas c'est reproché aux journalistes, une forme de condescendance. Je pense plutôt à la radio ou à la télé, peut-être moins à l'écrit. Tandis que les influenceurs, entre guillemets, on va mettre ça dans un énorme sac, ils sont plus au contact du réel. Alors, c'est tout relatif, mais il y a quand même cette idée, quoi. Tu vois ce que je veux dire
Moi, je pense que ça dépend des journalistes comme ça dépend des influenceurs, en fait, tout simplement. Là-dessus, je peux pas faire de généralité. L'important, c'est, je sais pas, c'est d'être au contact de ce réel du terrain. Un journaliste qui va jamais sur le terrain, au bout d'un moment, il fait quoi? Il fait un truc de salon, quoi. Enfin, on peut pas. C'est très important d'aller avoir l'information à la source, d'être dans la rencontre, de prendre le temps de la rencontre, de prendre le temps de vérifier les choses. Enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et on peut avoir des techniques narratives en fait qui mettent en scène aussi une enquête. Et c'est d'autant plus intéressant. Et voilà. Et donc c'est pareil pour les influenceurs. Ça dépend. Je pense qu'on va les suivre aussi parce qu'on a des appétences, parce que c'est des gens qui nous font peut-être du bien. Et puis ils vont peut-être nous faire du bien pendant un an et demi, puis après on en aura marre, on voudra passer à autre chose. Puis c'est pour ça qu'il y a des tendances d'ailleurs. Enfin voilà. Et c'est juste comme ça. C'est la vie, parfait, comme dirait ma fille. Mais voilà. Mais je dis ça, je dis rien, mais voilà. C'est,
La parole de sagesse.
Ouais.
Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Ah, en ce moment, j'ai envie d'ouvrir la porte à mes voisins qui, au bout de ma rue, je sais qu'on est sur des planètes très différentes. Et qu'en tant que journaliste, ça m'intéresse d'aller enquêter en grande proximité. Donc, ça me fait beaucoup cogiter depuis un an et demi, cette histoire, de savoir comment les atteindre. Alors, je passe mon temps à faire de l'info et que l'info n'atteint pas le bout de ma rue. Donc, ça, c'est quelque chose. Et j'ai envie de claquer la porte au temps perdu sur les réseaux sociaux à regarder des conneries. Et ça, ouais, c'est grave. Bon. Mais voilà.
Super. Merci beaucoup, Anne-Sophie.
De rien, avec plaisir.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.